Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Partir à la recherche de l'énergie noire. Souvenez-vous, Rémi Cabanac nous avait expliqué deux concepts récents en astrophysique. D'abord, la matière noire. Ce concept est issu d'une tension dans les modèles actuels. Souvenez-vous que l'univers, au début de sa vie, était relativement homogène. Ou en tout cas, que les mesures du fond diffus cosmologique, cette empreinte laissée par l'univers primitif, est relativement homogène. Mais notre univers actuel, lui, est structuré. Des atomes, des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies, des super-amas, et des zones de vide entre ces structures. D'après la physique que l'on connaît, cette structuration devrait mettre au moins 20 milliards d'années à s'organiser. Or, notre univers à seulement 14 milliards d'années, et ça nous le savons. Donc, comment a-t-il pu se structurer plus vite que ne le permet la gravitation ? L'hypothèse de la matière noire, c'est d'ajouter de la matière dans l'univers pour que la force de gravitation agisse plus vite que ce que nos modèles, basés sur la matière visible, permettent. Cette matière invisible, froide et non collisionnelle, c'est ce qu'on appelle la matière noire. De la même manière, les scientifiques sont arrivés à une impasse, à une tension, dans le modèle d'expansion de l'univers. C'est Edwin Hubble qui a découvert que notre univers était en expansion, grâce à des mesures réalisées par Henrietta Leavitt sur des distances d'objets très lointains, grâce à la mesure du décalage vers le rouge des galaxies. Et non seulement notre univers est en expansion, mais en plus il s'étend de plus en plus vite. Or, d'après nos modèles, il faudrait une énergie supplémentaire pour accélérer cette expansion. Une énergie qui s'opposerait à la gravité, une force répulsive, mais une énergie invisible, puisqu'on ne l'a jamais mesurée. Une énergie très importante, puisqu'elle est censée compenser et même dépasser les forces intenses de gravité. Elle a été baptisée énergie noire. Mais cette énergie noire n'a jamais été vue, n'a jamais été mesurée. Elle n'est donc pour l'instant qu'une prédiction qui permet d'expliquer les mesures faites de l'expansion de l'univers. Alors reprenons notre entretien avec Rémi Cabanac, astronome à l'IRAP, l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Rémi Cabanac, les scientifiques n'ont pour l'instant aucune preuve de l'existence de l'énergie noire. Les modèles, les méthodes utilisées sont donc dans une impasse ?
Bon, alors après, plus on raffine nos méthodes, plus on voit des détails
des
qui fonctionnent.
Des conséquences de la matière noire et de l'énergie noire ?
C'est lié à l'énergie noire et à la matière noire, mais c'est surtout lié au fait que quand on fait une mesure, on a des incohérences entre les mesures qu'on peut faire localement et les mesures qu'on peut faire dans le passé. Et en particulier, par exemple, la composante, l'expansion de l'univers, le paramètre de Hubble, le fond de rayonnement cosmologique nous donne une valeur. Et cette valeur, elle est extrêmement précise. C'est le satellite Planck qui nous a permis de faire l'analyse. Le modèle, il est parfait, tout fonctionne bien. Et il nous donne une valeur de la paramètre de Hubble, donc l'expansion, de 60 quelques kilomètres. 62, 63, plus ou moins quelques kilomètres par heure. Donc très précise. Donc quand on fait cette mesure-là avec les méthodes très lointaines, ça nous donne cette valeur-là. Quand on fait la mesure avec les objets locaux, les galaxies locales, etc., on ne trouve pas la même valeur. Alors pas parce que l'univers est en expansion accélérée. Hein. On se remet dans le même référentiel et on trouve que... on trouve une valeur qui est autour de 75 km par seconde, plus ou moins 3 ou 4 km de nouveau. Donc les deux sont incompatibles, ça fait trop d'écart. Voilà. Donc là, on appelle ça une tension. On a une tension dans la mesure de la constante, de la constante d'expansion de l'univers entre les mesures du début de l'univers et les mesures locales. Voilà. Et cette tension... n'est pas encore résolue. Ça fait quelques années déjà qu'on fait des efforts pour essayer de la résoudre et on n'y arrive pas.
Alors, est-ce que ce n'est pas autour justement de cette mesure, de cet écart entre les mesures dans le passé et les mesures dans le présent, qu'il faudrait chercher cette énergie noire ? Il y a peut-être éventuellement là une bonne piste ?
Il y a une piste à amélioration, peut-être de la nouvelle physique, ou peut-être une erreur systématique que l'on n'a pas identifiée et qu'on finira par identifier plus tard.
Oui, mais alors est-ce que c'est pas un petit peu frustrant pour un scientifique d'être obligé d'inventer un paramètre pour faire tenir des modèles sans parvenir à avoir une piste pour creuser, pour confirmer cette hypothèse ?
Alors, c'est frustrant, oui, mais en même temps, ça nous permet de développer de nouvelles expériences. Et la nouvelle expérience qui va arriver, C'est la sonde qui a été lancée le 1er juillet. Cette sonde-là va nous permettre de sonder ces composantes sombres dans le détail. C'est pour ça qu'elle a été conçue. C'est un télescope dont les Français sont les principaux responsables, mais qui est une mission ESA, donc de l'Agence spatiale européenne, donc qui couvre la totalité de l'Europe. Il y a des milliers de personnes impliquées. Et donc, cette mission spatiale, c'est un télescope qui va nous permettre de sonder un petit peu ces composantes sombres, à la fois la matière sombre et l'énergie sombre, à travers des techniques de pointe dans la mesure de la courbure de l'espace-temps, donc ce qu'on appelle les effets de lentille gravitationnelle. Voilà. Et donc on est tous très excités parce que ces données. Alors la mission va durer 5 ans et à partir de cette mission, on va fabriquer une énorme carte du ciel, une photo de tout le ciel extragalactique, donc la partie qu'on peut voir au-delà de notre galaxie, et on va essayer d'extraire toute la matière sombre que l'on voit dans ces grandes surfaces par des couches successives. Qu'on appelle la tomographie, et on va essayer de reconstituer la structure tridimensionnelle de cette matière sombre entre un temps où l'univers avait 5 ou 6 milliards d'années d'existence et aujourd'hui. Donc en gros, les 10 derniers milliards d'années d'existence de l'univers vont être observés par ce satellite, et on va pouvoir voir si cette matière sombre évanescente, qu'on voit par effet de lentille, a évolué au cours du temps. On va voir aussi si l'énergie sombre a bien les propriétés qu'on lui a prêtées. On aura des moyens de pouvoir paramétriser l'évolution de cette, et la valeur de cette énergie sombre à différentes périodes de l'espace-temps et voir si ça correspond aux propriétés qu'on lui a données, qui sont les propriétés les plus simples. Les physiciens, ils font pas des modèles compliqués. Ils font que des modèles simples, sinon ils n'y comprennent plus rien. C'est déjà assez compliqué avec le nombre de galaxies qu'on a dans l'univers pour complexifier les hypothèses et les modèles interprétatifs. Donc, on a pris l'énergie noire la plus simple. Bah, peut-être qu'il va falloir raffiner cette énergie noire et la rendre, par exemple, évolutive dans l'espace-temps, la faire varier dans le temps. Et donc aujourd'hui on en est là, donc on est tous très excités. En fait, on est à l'orée de découvertes de toute façon intéressantes avec cette mission spatiale et qui de toute façon vont nous donner des renseignements intéressants sur la matière noire et l'énergie noire.
Donc cette sonde, c'est un télescope qui a été lancé, un télescope spatial. Il a été lancé par une fusée.
Alors, il aurait dû être lancé par un Soyouz. Et l'invasion en Ukraine a cassé le contrat. Ça a mis un tout petit peu de bruit dans le signal. Et en fait, ça a demandé à l'ESA de revoir ses positions. Alors pendant quelques temps, on pensait qu'on serait lancé par une Ariane 6.
Et oui.
Qui était la suite. Ariane 5, c'est fini. Et donc la suivante, c'est Ariane 6. Mais Ariane 6 est en retard. Donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je veux dire, c'est une très bonne fusée. Elle sera très robuste et tout. Mais nous, ça nous gêne parce que nous, on est prêts. Et donc, tout mois de retard ou année de retard coûte cher. Un satellite qu'on met comme ça, qu'on fait patienter, c'est quelques dizaines, voire une centaine de millions d'euros par an à préserver.
Et oui, à préserver, à entretenir.
Exactement.
Tout en n'ayant pas vraiment de résultats pendant ce temps-là, finalement.
Exactement. Voilà, donc c'est vraiment un souci. Et donc, finalement, l'ESA a été convaincue d'acheter un lanceur à SpaceX. Donc, on va être lancé par une Falcon 9. Et donc, on ne sera pas lancé de Kourou, mais de Cap Kennedy.
Donc, pour revenir à Euclide, c'est un télescope spatial qui va prendre des photographies du ciel, c'est bien ça?
Alors, Euclide, c'est une mission spatiale qui a deux instruments, un instrument visible, une grande caméra visible et une grande caméra infrarouge. Voilà. Et donc, avec ces deux longueurs d'onde, on va pouvoir sonder la profondeur des objets. Et donc, ce satellite va être lancé au point de Lagrange 2, donc au même endroit que là où a été lancé le télescope géant de James Webb. Alors James Webb, lui, il observe des parties toutes petites de l'univers à la fois. Il a un champ qui est petit. Et Euclide, il a un champ qui est énorme, qui représente environ 4 fois la pleine Lune. Une image comme ça sur le ciel a une très bonne précision, très bonne résolution.
Ah, on va encore pouvoir se régaler avec des photos encore plus incroyables qu'avec Hubble ou James Webb.
Alors, la résolution d'Euclide n'est pas plus grande que la résolution du télescope Hubble, parce que la résolution est liée à la taille du miroir. Le miroir d'Euclide fait 1,2 mètre, et le miroir de Hubble faisait 2,4, donc deux fois plus grand. Mais comme on observe dans des longueurs d'onde qui sont un petit peu plus faibles que Hubble, on va avoir à peu près la même résolution spatiale, donc on va faire des photos qui sont du même type, du même niveau de résolution que le télescope Hubble, mais sur la totalité de l'univers. Et donc, en gros, la surface de ciel qu'on va observer, c'est 15 000 degrés carrés, donc c'est en gros un tiers du ciel nocturne. Et Hubble, en 40 ans d'observation, a observé environ 20 degrés carrés. D'accord ? Donc 15 000 à 20. Et donc, on change complètement de dimension. On change complètement d'échelle. Et cette capacité à voir la totalité du ciel sur une très grande distance, à une très grande résolution, ouvre tout un champ de sciences héritage qui ne sont pas vraiment liées à la science noyau pour lequel le satellite a été conçu, mais qui va apporter des données pendant des années et des années à toute une génération de cosmologistes.
Oui, il va falloir beaucoup de temps pour pouvoir utiliser ces données recueillies par Euclide, pour pouvoir les analyser.
Il va falloir du temps pour le compiler, pour les réduire, pour les analyser, pour les interpréter, et puis ensuite pour trouver de belles découvertes avec ces données-là.
Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, que ces données recueillies en ce moment même, hein, par Euclide vous permettent de percer les mystères de l'énergie noire, de la matière noire. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à consulter sur Internet les premières images fournies par Euclide cet été et à suivre les avancées de ce programme de recherche. Je vous remercie encore, Rémi Cabanac, de toutes vos explications claires, très clair même, qui nous ont permis de rentrer un petit peu plus en détail dans les connaissances avancées en astrophysique sur la naissance de notre univers et sur les mécanismes qui lui ont permis d'être dans l'état que l'on connaît aujourd'hui.